Paula,
Vin et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour lectrices et lecteurs, auditrices et auditeurs, et bienvenue dans ce 13e chapitre du tome 3. Je suis accompagné aujourd'hui de l'imperturbable Guy et de l'éternel Nico. Alors, 13e chapitre, va-t-il porter bonheur aux candidats du nouveau concours de nouvelles ?
Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Le nouveau concours de nouvelles est ouvert depuis le 1er avril, avec un règlement qui a été modifié, amélioré. Donc cette année, dans les nouveautés, il y a notamment la possibilité d'envoyer son texte par courriel. Sur une adresse spécifique, tous les textes qui seront envoyés sur une autre adresse que celle-là seront exclus du concours.
Oui, ils ne seront pas pris en compte.
Ils ne seront pas pris en compte pour essayer de garder un peu de confidentialité dans le concours.
Et voilà. Puis ce sera plus facile aussi pour les jurys.
Pour le jury, les jurys et tout, voilà. Donc, comme l'année dernière, c'est toujours un concours de nouvelles qui doit appartenir à un genre policier, noir ou thriller. On a rappelé qu'il fallait qu'elle comporte un titre, obligatoirement, parce que la recherche d'un titre est quand même quelque chose d'important dans la conception d'un petit texte court. Elle devra cette année, cette nouvelle, commencer par une phrase qui est « au cœur des ténèbres » et se terminer par une autre phrase qui peut être placée dans la dernière ou l'avant-dernière phrase « à la recherche du temps perdu ».
Donc, c'est pas l'auteur de Polar, ça.
Non, alors le premier, si, c'est le titre de Joseph Conrad.
Ah.
Et le dernier, c'est ben nommé oui. Marcel. Le concours, c'est toujours pareil, ça sera moins de 3 pages. Il y a quelques contraintes au niveau de la mise en page pour essayer d'avoir quelque chose de lisible pour tout le monde, pas un texte trop compressé. On peut toujours l'envoyer donc par mail cette année, ou par courrier, ou le déposer auprès de la librairie SILAB.
Alors, on rappelle l'adresse pour ceux qui voudraient l'envoyer par courrier.
Par courrier, c'est 14 rue du Mandarou, librairie SILAB. Ceux qui veulent l'amener physiquement, c'est toujours 14 rue du Mandarou, librairie SILAB. Et par courriel, l'adresse du courriel, c'est Cap Sud Aveyron 12 plus concours@gmail.com.
Et alors, si je voulais participer?
Si tu veux participer, bah, tu écris un texte donc sur 2-3 pages, format A4. Tu respectes les consignes du Arial 12 comme caractère, interligne 1, marge gauche et droite 2,5. 3 pages maximum, un titre et roule ma boule. Tu envoies ton texte, soit par mail, soit tu l'amènes physiquement, 14 heures du matin, libéré syllabe, ou bien tu l'envoies par courrier.
Okay.
Il faut rajouter quand même, parce qu'on a déjà un participant qui a oublié de nous mettre ses noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone.
Ah ouais, mais tu dis que c'est anonyme, alors bon, forcément...
Alors, l'anonymat, on est obligé d'avoir un moment donné quand même un peu identifier un peu les nouvelles pour les répertorier et les classer. L'anonymat, si les personnes qui veulent l'envoyer par courrier ou l'amener à la librairie SILAB peuvent très bien cacher leur identité en mettant dans une enveloppe séparée, dans leur envoi, une enveloppe séparée avec leur nom, adresse et tout, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Par contre, par courriel, c'est difficile de garder un anonymat parfait. Donc, il y aura une personne habilitée.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Les membres du jury, en fait, eux, en tout cas, n'auront pas les noms.
Non.
Voilà, donc il n'y a qu'une personne.
Habilitée à identifier.
On ne dira pas le nom parce que pourtant, il aimerait bien recevoir des chèques, mais bon. Voilà, on va
rester. Ouais, mais je peux dire le nom alors. Il y aura une seule personne habilitée à regarder les noms. Pour répondre à une question que j'ai eue de potentiels participants qui souhaitaient savoir quel était le prix. Alors, le prix, on a été obligé de lui répondre que le prix, ce n'était pas nécessairement des sous. Le prix, il y a tout ce qu'il y a autour.
Le succès.
Le succès.
Le pouvoir.
Oui. pouvoir dire j'ai le prix de la nouvelle Robin Cook de Paul Harvey et compagnie 2026, c'est quand même quelque chose d'honorifique. Le prix, il n'y a pas de prix en numéraire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas, y a rien. Si ce n'est que l'année dernière, pour ceux qui ont participé, qui ont vu, qui ont assisté à la cérémonie, les auteurs primés ont tous reçu quelques petits cadeaux.
Oui, c'était sympa, il y avait des livres, il y avait des bouquets de fleurs pour les dames, et puis cette année, on s'est plus ou moins engagé, ce sera un partenariat avec Radio Larzac, d'essayer de faire une pièce radiophonique du gagnant. L'année dernière, c'était pas le gagnant, c'était le second, mais... Il nous avait peut-être un petit peu plus parlé, il était peut-être plus facile à réaliser aussi.
Le texte s'y prêtait plus. Puis de toute façon, le texte sera, comme l'année dernière, produit sur le blog de l'association, blog sur lequel on peut retrouver notamment le règlement du concours précis, on peut le télécharger en PDF, et donc ça peut se faire. Le jury avait envie, mais je pense qu'on ne va pas le faire, une prime aux nouvelles qui arriverait les premières, pour éviter d'avoir, dans la semaine précédant la fin d'envoi, de la date d'envoi, c'est-à-dire la date du 31 août, de ne pas avoir 50 nouvelles qui arrivent.
Oui, comme l'année dernière, d'en avoir 30 le dernier jour d'un coup. Voilà. Et puis surtout, les résultats seront donnés plus tard, parce que l'année dernière, d'un coup, se retrouver avec...
On avait 12 jours l'année dernière pour lire beaucoup de nouvelles. Cette année, ça sera, le jury aura jusqu'au 7 novembre pour les lire, pour une cérémonie qui aura lieu le 14 novembre sur Millau. On ne sait pas encore où. Primer les nouvelles qui arriveront en premier, ça n'a pas fonctionné. C'est pas très équitable.
Oui, non, non.
Mais bon, on est ça. On ne sait jamais.
On peut dire la première. C'est bête, la première, il n'a pas donné son nom. Il y avait un chèque de 1000 euros. C'est dommage.
Et c'est dommage, on ne parle pas lui.
C'est dommage, on ne sait pas qui c'est.
Alors la toute première, elle est disqualifiée, mais elle est hors circuit. Et en plus, on a trouvé que c'était un membre du jury qui l'avait envoyé.
Oh là 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 là.
Un tordu.
Oh là 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 là.
Rien à vendre, j'ai rien à vendre. Bonjour, je ne suis pas un grand amateur de polar, donc je suis allé à la médiathèque de Millau et on m'a orienté vers Jackie Schwartzman, son bouquin qui s'appelle « Demain, c'est loin ». Dans cette histoire, il n'y a pas de héros, quelqu'un d'ordinaire qui va vivre par contre des événements extraordinaires. Ça se passe dans une cité de la banlieue de Lyon. François, qui a passé son enfance, tient un magasin de fringues, mais qui ne marche pas du tout. Il a une idée de génie, enfin selon lui, qu'il va proposer à sa banquière afin d'obtenir un prêt. Mais la banquière n'y croit pas du tout. Encore un projet irréalisable, vous vous moquez de moi. Comme ça ne fonctionne pas, il va donc chercher de l'aide auprès du caïd de la cité, avec qui il faut avancer prudemment, mais François sait le prendre. C'était avec son jeune cousin, son pote le plus proche. Ça ne fonctionne pas non plus, il redescend. Au bas de l'immeuble, il trouve le cousin avec qui il échange quelques mots. Il aperçoit, un peu plus loin, un moment, une voiture bloquée par des jeunes de la cité qui s'amusent à faire suer la conductrice. Pour se tirer d'affaire, elle ne trouve qu'une solution, foncer dans le tas. Les jeunes s'écartent, mais elle perd le contrôle de son véhicule et percute le jeune cousin. Là, elle reconnaît François et le supplie de l'aider à se tirer d'affaire. Et là, François, il est très mal. Parce que là-haut, le caïd a vu tout de sa fenêtre. Il a vu la voiture qui a fracassé son cousin, qui ne se relève pas. Et qui ne se relèvera pas. Il voit aussi que la conductrice connaît François. Et c'est le démarrage de péripéties invraisemblables dans lesquelles il va se retrouver tout au long du livre. C'est bien écrit, l'auteur ne manque pas d'imagination pour le sortir à chaque fois de ces situations inextricables. C'est foutraque et agréable à lire. J'ai apprécié également dans ce livre les descriptions fines de la psychologie humaine que fait l'auteur dans un langage populaire un peu façon Redot. Dans l'extrait que je vais vous lire, François s'est vu proposer une solution pour se tirer d'affaire parce qu'il est accusé d'homicide involontaire, malgré que ce soit sa banquière qui soit responsable de la mort du jeune cousin. Donc il va s'expatrier à Alger chez une tante de ses entre guillemets protecteurs qui a 90 ans et tenancière d'un restaurant. Et donc il va partir là-bas se mettre au vert pendant 3 ans parce que 3 ans c'est à peu près, enfin il paraît, le délai de prescription d'un homicide involontaire. La colletterie occupait le rez-de-chaussée d'un vieil immeuble de 3 étages, entière propriété de Colette. Au premier, c'était ses appartements, sa cuisine qui ne servait à rien car elle préparait toujours tout au restaurant, son salon avec canapé et écran un peu daté, une salle de bain avec une baignoire, sabots et des chiottes. Au deuxième, ce serait chez moi, il n'y avait là qu'une chambre et encore des chiottes. Au troisième et dernier, enfin, un immeuble bordel que Colette m'a présenté comme étant le grenier. Voilà où je devrais passer les 3 années à venir. Le premier mois, je ne suis quasiment pas sorti, j'ai juste squatté le canapé du premier et passé des heures et des heures à regarder BFM TV et CNews. Car notre aventure faisait du bruit en France, pas mal de bruit. Petit rappel, j'avais tué accidentellement Ibrahim au volant de l'Audi de Juliane. Pris de panique suite à cette malencontreuse cascade, j'avais séquestré Juliane et sa mère chez elle. Saïd, son frère et les deux Benzia étaient parvenus à me retrouver. Ils étaient venus pour venger la mort d'Ibrahim et ils avaient fait une sortie de route juste au niveau de l'étang de la propriété des Bacardi. Les journalistes des deux chaînes d'infos continues ne cessaient de marteler qu'il s'agissait là d'un accident bête, sous-entendant d'ailleurs au passage qu'il peut y avoir des accidents intelligents. La famille et les proches de Saïd ne pouvaient à l'évidence pas gober ce scénario. Les choses ont tout de même fini par se tasser pour une bonne et simple raison. Les journalistes n'ont très vite plus rien eu à raconter. Le coupable, moi, était en cavale. Les Belchia ont enterré leurs jeunes et des gonzes un peu plus jeunes ont repris le trafic de Saïd, car la cité a horreur du vide. Autre chose dont la cité a horreur, ce sont les émeutes et les caméras. Circuler, il n'y a rien à voir, on bosse ici. Et voilà. Voilà comment l'affaire s'est terminée, comme toujours, par décision de la Cour pénale des médias télévisés. Ça, c'était 1 mois seulement après mon départ en Capitimini pour Alger. L'affaire a donc quitté le petit écran. En revanche, je ne suis pas parvenu à quitter le canapé de l'étage. Mon petit cafard du premier soir s'est gentiment transformé en dépression. Ça aussi, j'ignorais que j'en étais capable. Déprimé. Me morfondre, me noyer dans les plis d'un canapé, regarder les programmes de France 5. Quand vous vous intéressez aux magazines de la santé, c'est le symptôme que votre état est plus grave que prévu. Quand vous en arrivez à « silence, ça pousse », vous pouvez commander une camisole et réserver une place en hôpital psychiatrique. J'en suis arrivé là. Impossible d'aller me coucher si je n'avais pas eu mon C dans l'air et la divine Caroline Roux pour m'aider à comprendre la France et le monde. La télécommande de la boxe de Colette était devenue une espèce d'extension de ma propre main et je passais mes journées à zapper, affligeant. J'attendais que Colette ferme le restaurant et monte se coucher pour libérer son étage, réintégrer le mien et m'endormir aussitôt. Le matin, je faisais 2-3 courses pour ma logeuse et puis plus rien. Ça a duré 2 bons mois avant que le sang dans mon corps ne se mette à nouveau à bouillir. En tout cas, je pourrais dire au soir de ma vie que j'ai essayé la déprime et que c'est naze, totalement naze. Et puis alors, s'il y a vraiment un truc qui ne sert à rien, c'est ça, aller mal. Je suis donc remonté en selle, j'ai ouvert en grand les fenêtres dans ma tronche et je suis reparti au combat.
Si comme Christian, il y a un livre dont vous avez envie de parler, ou un auteur, ou un film, hein, tout ce qui peut avoir une relation avec le polar ou le noir, n'hésitez pas, c'est la rubrique « Rien à vendre, j'ai rien à vendre » et encore merci Christian. Florent, comme à son habitude, est parti à la recherche d'un premier roman. Il a trouvé celui de Laurent Tocquet, « Mots, contes triples ». On les écoute.
En 1455, Johannes Gutenberg a imprimé la première Bible.
Mais ne recommence pas, hein, sinon...
Je vais briser tes os! Je vais boire ton sang!
Et toujours comme ça, la première fois.
Aujourd'hui, nous accueillons Laurent Tocquet pour son premier roman, Mots, contes triples, édité chez Héliopole. Bonjour, Laurent Tocquet.
Oui, bonjour.
Alors, Laurent Tocquet, courte bio, hein, parce que vous êtes très secret, on ne sait rien de vous. Alors, vous êtes lyonnais, c'est ça, vous êtes né à Lyon?
Non, je ne suis pas né à Lyon, mais j'habite Lyon depuis 50 ans. Mais je suis né en Normandie, en fait.
mes 50 ans à Lyon, donc lyonnais d'adoption.
Je suis vraiment devenu lyonnais. Je suis arrivé à Lyon durant mon adolescence. Mes enfants sont nés à Lyon. Et... Oui, on peut dire que je suis lyonnais, même si je suis né en Normandie.
Vous avez, dans votre vie professionnelle, été disquaire, libraire. Vous avez aussi travaillé pour un distributeur de Monde de l'édition. Voilà, hein, pour faire simple.
J'ai toujours travaillé dans le culturel, dans ces deux domaines.
D'accord, entre l'écriture et la musique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc votre premier roman. J'aurais pu dire premier roman noir, j'aurais pu préciser premier polar, ou même j'aurais pu indiquer simplement ce récit en moins de 140 pages est un ovni dans le champ de la littérature policière, comme dirait Bourdieu. Alors, la littérature...
Je ne suis pas spécialiste de Bourdieu.
C'est donc... par rapport au champ.
Oui, je vous laisse cette citation.
Alors, c'est pas du tout apocryphe. Je parle de littérature policière, mais je parle de celle qui nous parle de folie, de tueurs en série, d'enquête, qui nous parle aussi d'une époque, chez vous, les années 80, de sa musique et de ses interrogations. Alors, Laurent Toquet, pourquoi ce récit sous cette forme et dans ce genre particulier?
Curieusement, je viens d'écrire un polar. Donc je préfère l'expression roman noir. Je lis énormément, mais je ne lis pas beaucoup de polars. Mais depuis longtemps, j'avais envie d'écrire un livre sur le destin et le hasard, sur les rencontres, sur le fait que des rencontres, des fois, vous font basculer du côté du bien ou du mal, vous rendent heureux ou malheureux, et tout ce qui en découle. Donc j'ai pris pour excuse donc un fait divers, donc un double meurtre, et là commence en fait tout ce qui m'obsède, c'est-à-dire être au mauvais moment, au mauvais endroit, et comment on peut changer les choses ou pas.
C'est vrai que les rencontres, les personnages sont importants dans ce court récit. L'écriture est très fluide. Hein. Je dirais que c'est celle d'un auteur qui ne se prend pas pour un autre. C'est très agréable à lire et c'est vrai qu'il est difficile de lâcher votre roman. Vous parliez de rencontres, je voulais lire un tout petit extrait où justement ça parle de rencontres. Dans l'affaire du double meurtre des Corbières, il sent que le destin a fomenté cette imprévisible rencontre. Il est de plus en plus convaincu que rien n'était prévu, rien n'était calculé. Seul le hasard semble responsable de cette tragédie. Le couple était au mauvais endroit, au mauvais moment. Le tueur devrait être là depuis longtemps, avant que les amoureux viennent s'installer dans la bergerie. Ceux-là l'ont dérangé dans sa retraite, ils l'ont tant perturbé qu'il a fini par les tuer. Cette tuerie sent le défoulement pur et dur. Le coupable est sans doute désormais redescendu en pression, retrouvant le chemin de son quotidien, un homme presque comme un autre en quelque sorte. Alors, il y a crime, donc il y a double meurtre, et c'est quasiment pour vous un prétexte pour nous présenter une dizaine de personnages à peu près, qui ont tous de l'épaisseur, une certaine forme d'humanité, et vous dépeignez en peu de pages ces multiples visages qui, je dirais, composent autant de mondes qui, avec leurs échecs, leurs frustrations, leurs joies et leurs interrogations, finissent par se percuter, tout ça en musique. La musique, quelle est son importance dans votre vie?
La musique a une immense importance dans ma vie. J'ai grandi avec un père qui est fou de musique. Et après, quand j'ai grandi, moi, tout seul, je me suis mis à écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. En fait, aussi lointain que je remonte dans ma mémoire, c'est-à-dire vraiment mon enfance, sur les 7-8 ans, j'écoutais déjà des disques. Alors, j'écoutais des disques en lisant, j'écoutais des disques en faisant mes devoirs, j'écoutais des disques en pleurant quand j'avais de la peine. Et souvent quand j'ai un album ou même un morceau de musique me fait penser à une période bien précise ou des fois à quelqu'un de bien précis. La musique, c'est vraiment pour moi l'atmosphère numéro un de ma vie, quoi. Donc c'est pour ça qu'on met deux personnages principaux, donc l'inspecteur Marceau Rumini, qui est celui qui mène l'enquête, est un passionné de musique, parce que j'ai voulu parler de ça et de cette ambiance. Alors là, évidemment, ça se passe à la fin des années 70 et au début des années 80. Donc les groupes et les titres qu'il écoute sont en phase avec cette période-là. La musique, pour moi, c'est quelque chose qui me calme. J'ai constamment besoin de musique, en fait. Ça m'apaise. Je ne peux pas vivre sans. Je crois que je pourrais me passer de livres, mais je ne pourrais pas me passer de musique.
Alors c'est vrai que la musique est très présente dans le roman. D'ailleurs, vous faites une liste de la vingtaine de morceaux que vous citez.
Je ne voulais pas que la playlist soit trop indigeste, donc j'ai cité les 20 morceaux auxquels je fais référence à travers mes personnages dans le livre.
Ce récit, c'est l'histoire de l'inspecteur Marceau qui poursuit Tiburce Legendre, le marginal reclus, soupçonné d'un double meurtre. La traque, c'est l'occasion aussi que vous saisissez pour nous parler donc de folie, de maladie, de football aussi, de l'amour, de la musique, du sexe, du rapport mère-fils, de la politique. Oui. Tous ces thèmes d'ailleurs sont portés par les personnages, mais chacun s'en partage un de ces thèmes. Donc, pour vous, situer l'histoire au début des années 80, ça correspond à quelle volonté ? C'est par rapport à votre parcours ou par rapport à ce que vous vouliez dire avec ces personnages-là ?
C'est vrai que j'aurais pu situer cette histoire dans une autre période. Hein. C'est une histoire que j'aurais pu situer dans les années 90, 2000 ou même avant, même si avant j'étais pas né, donc ça aurait été compliqué d'avoir des réflexions politiques ou de parler de faits divers, mais moi j'ai choisi ces années-là parce que c'était les années où j'étais étudiant en lettres, où je m'intéressais beaucoup à la politique, bon, beaucoup à la musique, mais on l'a déjà dit, où je lisais beaucoup et où je sortais beaucoup aussi. Et donc j'ai situé ce fait divers là, et je l'ai situé aussi dans les Corbières parce qu'en fait c'est là que ma mère habitait à la fin de sa vie, et c'est une région que j'ai visitée, que j'ai découvert sur le tard. Voilà pourquoi ça se situe dans les Corbières, même si toute une partie de l'histoire se passe aussi à Paris, une autre à Charleville-Mézières,
ouais,
et un peu partout selon les personnages, en fait.
C'est ça, chaque personnage a son monde, en fait, que vous décrivez très bien. Sans vouloir divulgâcher le roman, comme on dit, je remarque que finalement, à la fin, vous ne faites pas beaucoup de cas de la morale, on va dire. Est-ce que c'est une façon pour vous de dire à vos lectrices et lecteurs, vous aussi, soyez fous ?
Oui et non, parce que ça dépend ce qu'on appelle par folie. Soyez fou dans le genre, osez être vous-même si la folie est douce, oui. Soyez fou si vous sortez des sentiers battus et que vous êtes hors la loi, non. Mais un de mes livres préférés de tous les temps, c'est Nietzsche, Par-delà le bien et le mal. Et j'ai toujours trouvé que le fil est vraiment entre le bien et le mal est vraiment, comment dirais-je, petit et tendu, et il peut craquer et on peut passer d'un côté comme de l'autre selon justement les rencontres ou selon aussi les événements qui vont tapisser votre vie, quoi. Mais le thème de la folie est un thème qui m'a un peu obsédé pendant les années où j'étais étudiant. J'ai beaucoup lu Antonin Artaud, j'ai beaucoup lu Freud, et c'est vrai que ça m'a toujours intéressé. Comment on bascule d'un côté ou de l'autre ? Est-ce qu'on est fou ou est-ce qu'on le devient ? Etc. Etc. En fait, moi, ce que j'ai voulu faire à travers cette intrigue policière, qui est effectivement une intrigue qui est quand même importante, c'est dépeindre une galerie de personnages qui sont tous différents et qui vont être appelés à se rencontrer. Et donc, c'est de ces rencontres que va découler cette histoire. Voilà.
Et alors, quelque chose d'un peu fou, en tout cas original, c'est le prénom des deux personnages principaux, Tiburce et Marceau. Marceau, c'est le policier, Tiburce, c'est le fou errant, on va dire. Pourquoi ces prénoms ?
Je vais vous donner les deux explications. Marceau, c'était le prénom de mon grand-père,
d'accord,
le prénom du père de ma mère, qui a énormément compté dans ma petite enfance, parce que c'est lui qui m'a en partie élevé. Et c'était un peu lui rendre hommage d'appeler mon personnage principal Marceau. Alors pourquoi Tiburce ? Parce que en fait, beaucoup de gens, et encore maintenant, donnent des prénoms originaux aux enfants sans penser aux conséquences que ça peut avoir sur eux quand ils seront plus grands. Parce que dès qu'on arrive au collège, quand on a un prénom qui sort un peu de l'ordinaire, il y a des moqueries, il y a des mises à l'écart, il y a du harcèlement. Ça aussi, ça m'intéressait, donc c'est pour ça que j'ai appelé mon personnage principal Tiburce. J'ai cherché un prénom,
C'est pas le premier qui vous est venu à l'esprit tout de suite.
Non, il y avait Alcide, ah, oui, Tiburce. J'ai cherché un prénom, un vrai prénom, mais un prénom que plus personne n'utilise ou que peu de gens connaissent. Et c'est tombé que ce Tiburce était un empereur romain. Et l'histoire de ce Tiburce m'a plu. Et donc j'ai appelé mon tueur, enfin sans rien dévoiler, Tiburce, voilà. Qui donc part avec un handicap pour moi dans la vie, de s'appeler Tiburce. Alors j'ai peut-être tort, hein, mais je trouve ça assez bizarre qu'on puisse donner des prénoms aux enfants qui sortent tellement de l'ordinaire que ça peut se retourner contre eux.
Alors c'est vrai que bon, bah, ça rend, c'est un élément qui rend aussi attachant et original votre livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement le chemin parcouru pour être édité ?
Avant ce roman, qui est effectivement un premier roman, j'ai écrit une biographie de musicien et j'ai écrit des nouvelles aussi. Mais je m'étais toujours auto-édité parce qu'en fait, c'était pas une fin en soi pour moi d'être lu ou je trouvais que le parcours était compliqué. J'avais pas envie de ça. Et puis aussi, j'ai travaillé ces 10 dernières années dans l'édition. Donc, je voyais comment ça se passait. Et puis un jour, j'ai eu des facilités quand même, hein, puisque comme je travaillais dans l'édition, j'ai rencontré des éditeurs. Et un jour, je discutais avec mon éditrice, donc Héliopole, je lui ai dit que j'écrivais. Elle me dit, j'aimerais bien te lire. Voilà, donc en fait, c'est pas un cheminement normal du type qui a écrit un manuscrit, qui l'a envoyé, qui a attendu souvent des mois sans aucune réponse et qui a ramé. Je lui ai envoyé, donc en attendant rien. Et elle m'a recontacté quelques jours après, même pas une semaine, en me disant que ça l'intéressait, que mon écriture était assez originale et que mon histoire l'était aussi. Donc on s'est mis d'accord sur une façon de travailler. Et puis elle m'a proposé un contrat et puis me voilà donc chez Héliopole et distribué par la Sodis, ce qui est une énorme chance parce que la Sodis, c'est le groupe Gallimard. Donc mon livre se retrouve dans toutes les librairies, dans toutes les chaînes, et voilà, j'ai eu de la chance en fait.
Oui, mais je crois que c'est beaucoup d'auteurs nous disent que la chance joue énormément dans la première édition d'un premier roman. J'ai une question encore, ça c'est la question qu'on se pose tout de suite une fois qu'on a fermé votre livre. Le titre « Mots comptent triple », c'est votre passion cachée pour le Scrabble ?
Alors absolument pas, pour tout vous dévoiler... C'est un choix de l'éditrice. Mon livre s'appelait « L'homme divisé ». Vous comprenez pourquoi maintenant que vous avez lu mon livre. Et Zoé, mon éditrice, ne trouvait pas le titre terrible. Vous savez, quand vous signez un contrat avec un éditeur ou une éditrice qui vous suit, il y a une équipe derrière vous. Et avant de signer ce qu'on appelle le bon à tirer, c'est-à-dire le bon pour imprimer votre livre, il se passe des mois.
Bien sûr.
On discute, mon éditrice m'a dit « Laurent, ça me plaît, ça me plaît pas, est-ce que tu veux changer ça ?» Et moi, il y a des choses que j'ai accepté de changer, d'autres choses que j'ai pas accepté de changer. Et c'est un peu du donnant-donnant, on marchande quand même avec un éditeur. Hein. Et donc j'ai dû lâcher du lest sur certaines choses et j'ai lâché du lest sur le titre, entre autres. Et après, entre nous, j'aime beaucoup jouer au Scrabble.
Je trouve que le titre du roman est plutôt bien.
Vous voyez, c'est en ça qu'on voit le professionnalisme d'une éditrice, c'est que tout le monde me dit que le titre qu'elle a donné à mon roman est beaucoup mieux que celui que j'avais choisi.
très bien, c'est une équipe qui fonctionne. Notre courte interview s'achève. J'espère qu'elle vous aura donné envie à toutes et à tous l'envie irrépressible d'aller acheter dans la librairie la plus proche « Mots comptent triple » de Laurent Tocquet aux éditions Héliopole. Et si vous voulez découvrir des personnages très humains, décrits avec talent par petites touches simples mais efficaces, achetez « Mots comptent triple » chez Héliopole. C'est bientôt les vacances, c'est parfait pour les vacances. Merci beaucoup Laurent Tocquet d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien qui était très chaleureux. Tall.
It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in small cafe. You could hear the guitars play. It was very nice. Oh, honey, it was paradise.
C'était Berlin de Lou Reed, issu de l'album concept du même nom, enregistré en 1973, une période musicale très importante pour Laurent Toquet. Nous en reparlerons certainement, mais dans une autre émission.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Nous sommes avec Pete. Bonjour Pete.
Et bonjour.
Alors Pete, figure bien connue des Miavois et Miavoises dans sa boutique Le Mescladis, où, comme son nom l'indique, on retrouve tout ce qui est bon pour satisfaire ses goûts. Alors, Laurent Toquet, qui a écrit Mot contre triple, bien qu'habitant Lyon, donc proche de vignobles plus prestigieux peut-être, et on va voir, nous a conseillé pour mieux apprécier son livre Le Pic Saint-Loup. On a remarqué ce succès du Pic Saint-Loup, je dirais, dans ces 20 dernières années, peut-être. Comment tu l'expliques, toi, Pete ?
Il y a une démarche qualitative qui a été mise en place. Comme on s'est aperçu que les gens buvaient un peu moins, mais avec une recherche de qualité, c'est vrai que le Pic Saint-Loup a tout pour satisfaire le client. Parce qu'en fait, voilà, on est sur des terroirs qui sont ensoleillés la journée, frais la nuit, avec une bonne humidité. C'est tout ce qu'il faut pour que le raisin puisse s'épanouir et faire des vins à la fois puissants, mais en même temps avec une belle buvabilité, de la fraîcheur, du goût. Voilà, c'est vraiment un endroit bien spécifique et propice à faire de jolis vins.
Qu'on situe facilement autour justement du Pic Saint-Loup.
Oui, voilà, l'appellation Pic Saint-Loup est limitée par rapport à un terroir, c'est-à-dire par rapport à des conditions géologiques. Et aussi avec des conditions climatiques.
Alors toi, tu travailles avec deux producteurs de vignerons qui sont bio.
Comme le terroir est bien vanté, toujours bien aéré, avec une belle géologie, voilà, les vignerons ont plus de facilité que dans certains autres endroits à travailler en bio, à travailler proprement. Et en fait, c'est toujours pareil aussi, ça vient avec cette démarche qualitative. Où en fait, moins on utilise de produits chimiques, mieux le vin se porte.
Alors, il faut que tu les cites quand même.
Bon, là, en ce moment, en cave, je travaille avec deux domaines. Il y a le domaine de la Chouette du Chais, qui est un domaine assez jeune, assez récent, qui, lui, est situé un petit peu sur les hauteurs de l'appellation. Et en fait, on est sur des vins avec une belle puissance et quand même une très belle buvabilité. Ce sont des vins qui sont très digestes, qui se boivent très facilement.
Alors, qui mettent sur leur étiquette, rien ne m'effraie, hein, apprécier le jeu de mots.
Oui, voilà, parce qu'en fait, ça pourrait très bien peut-être aller avec le roman policier, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont restauré des vieux bâtiments, et en fait, quand ils ont restauré le vieux bâtiment, il y avait dans un clocher, il y avait une chouette effraie.
Et alors, le second, c'est ?
Le second, on est sur un domaine qui est un peu plus ancien, qui est le Clos des Augustins, qui lui est situé un petit peu plus dans la plaine. même si ils ont une capacité à produire des vins en altitude aussi, parce qu'ils ont des vignes un petit peu plus en altitude. Et en fait, eux, ils ont une gamme qui est un peu plus étendue, avec des vins sur des profils plus jeunes. Alors, un peu plus de gourmandise, plus de fraîcheur. Ça, ce sont des vins qui sont tirés de vignes plus jeunes. Ce sont des vignes qui ont, allez, on va dire, pour avoir l'appellation Pixailou, il faut qu'elles aient déjà au moins 7 ans d'existence. Et en fait, voilà, donc, c'est des vignes qui ont entre 7 et 15 ans. Et après, sur les vignes plus âgées, on arrive à sortir des vins plus marqués par le terroir, plus puissants, avec plus d'expression.
Alors, rappelons le quatuor gagnant du Pixailou, des cépages.
Ce sont des vins qui sont faits avec des cépages essentiellement avec du Carignan, du Grenache, du Mourvèdre, de la Syrah. Ce sont des cépages qui sont quand même assez marqués et très expressifs.
Avec des assemblages toujours assez différents en fonction de chaque propriétaire. Et alors l'accord Mévin, qu'est-ce que tu conseillerais
Si vous choisissez un Pixailou jeune, bah, très bien aller avec une petite planche apéritif, fromage, charcuterie... une viande blanche, et après si on monte sur des vins un petit peu plus expressifs, un peu plus âgés, là ouais, c'est la petite côte de bœuf ou une entrecôte, voilà, quelque chose d'un peu plus puissant.
Ouais, un peu plus consistant. Bah écoute, Pete, on te remercie pour ces conseils. Je vois que tu as un livre que j'ai envie de conseiller. Alors, c'est pas un polar, c'est un livre sur le Pixailou, justement, Un terroir des hommes, écrit par Florence Jarognac et Sharon Nagel, avec des photos de Claude Cruels. Alors, je sais pas où c'est qu'on peut le trouver. Je vois pas de nom non plus d'édition, mais bon. Vous pouvez toujours, en tout cas, venir le feuilleter chez Pete. Oui, je vois qu'il y a un terroir d'exception. C'est peut-être une collection. Voilà, donc le Pixailou à consommer avec modération, bien sûr, tout en lisant mot contre triple de Laurent Toquet. Encore merci, Pete.
Merci à vous et bonne journée.
Et on retrouve Guy pour nous présenter l'actualité de l'association Cap Polar Sud Aveyron.
La principale actualité, c'est le jeudi 16 avril prochain. À 18h30, l'Assemblée Générale de notre association, où tout le monde est convié à venir, mais les membres doivent venir, pour notamment parler de l'actualité 2026 et notre petit festival qui commence à se préparer pour lors de la remise
la fin du mois de juin,
le 26 je crois, ou 27.
Oui, 26-27.
Pour la remise du prix Robin Cook 2026. Donc ça c'est un peu une surprise, mais qui commence à se travailler petit à petit.
Et on espère aller au bout.
À côté de ça, l'actualité, ben, ce sont les ateliers écriture qui continuent bon train, puisque maintenant nous sommes au rythme de 2 par mois. Donc les prochains ateliers sont le tout prochain, ce sera le samedi 18 avril à 9h30 à la salle galerie du Créa. Le suivant sera le 9 mai, le suivant le 23 mai, ensuite il y aura le 13 juin.
Voilà, ben, ce 13e chapitre du tome 3 de Polar Vin et Compagnie se termine. Alors un petit rappel, Guy, les prochaines dates pour ce qui est l'association Cap Polar Sud Aveyron.
Sans faute, l'AG le 16 avril à 18h30, on commence à signer à 19h, on commence à discuter à 32h, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait.
Voilà. Voilà. Et le prochain atelier.
Le prochain atelier, 18 avril, le samedi qui suit.
Le prochain Polar Vin Compagnie, on revient sur le prix Robin Cook avec l'interrogatoire de Jean-Marie Légoni dans Descente de liste aux éditions Rouergue, et vous pouvez toujours retrouver nos éditions précédentes sur radiolarzac.org. À bientôt.
Merci, au revoir.